Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Je voudrais aujourd'hui évoquer avec vous une personnalité du spectacle qui est assez exceptionnelle. Chanteur, auteur-compositeur, interprète, acteur, peintre, écrivain. Tout ça pour un seul homme, direz-vous, ça fait beaucoup. Et pourtant, c'est le cas de Mouloudji, Marcel Mouloudji. Alors, qui était Mouloudji ? Il est né le 16 septembre 1922 à Paris. Son père, né en 1896, est maçon. Il est maçon, il est kabyle. Il a la nationalité française, mais il est kabyle. Sa mère est aide-ménagère. Elle est d'origine bretonne. Marcel a un frère. Un frère qui, apparemment, est préféré par la mère, mais c'est très difficile à juger, surtout avec le recul du temps. Une chose est sûre, le père, Saïd, est analphabète. Et très vite, il va se retrouver tout seul. Le père, je veux dire, il va se retrouver tout seul parce que Génie, la mère, est atteinte de troubles mentaux. Elle sera internée. Et le père, qui a donc deux enfants à élever, deux garçons, essaie tant bien que mal de maintenir la famille à flot. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que le fils aîné étant très malade, le deuxième, Marcel, va commencer très vite à mener sa propre vie. Il va se débrouiller, il va chanter dans les rues, il va faire un peu n'importe quoi, un peu tout, un peu n'importe quoi, et essayer peut-être d'oublier les rapports difficile qu'il avait avec sa mère. Voici ce qu'il écrira plus tard dans un de ses livres. Ma mère était minuscule, une blonde aux yeux bleus, effacée, douce, maniaquement propre. Elle préférait m'encadrer, j'acceptais d'être repoussée sans comprendre, fataliste. Je n'en voulais pas à André, mon frère, car son secret, nous jouions nos rôles de frères sans souci de différence. Bien que fragile, la mère pouvait en un instant se transformer en fauve. Serré à quatre dans la petite pièce, on se tenait aux aguets afin de ne pas l'exciter. Je dépliais mes jambes avec circonspection. Quand les lubies traversaient son esprit, ses yeux, déjà mi-clos, se plissaient à un point tel que rien n'en filtrait plus qu'un regard terrible, dur, pointu, me transperçant jusqu'à l'os. Dès qu'une séance démarrait, je me figeais. Un imperceptible sourire sombrait son visage, elle se tenait à l'arrêt. Pareil à un chat, un serpent d'eau guettant sa proie. Sa tête s'approchait de la mienne, ça prenait un temps infini, jusqu'à ce qu'elle parvienne à quelques centimètres de moi. Pour moi, c'était tenir jusqu'à ce que l'orage passe. Heureusement, Marcel a suffisamment de ressources en lui pour se lancer dans l'aventure de la vie et échapper à son environnement. Plus tard, beaucoup plus tard, il va retrouver, si on peut dire, son père, Voici ce qu'il écrit à ce sujet. La personnalité de mon père m'intriguait. Lui, qui ne savait ni lire ni écrire, m'en imposait. Il dégageait de la bonté, une noblesse innée, une droiture instinctive. D'où tenaient-ils ces qualités alors qu'il n'avait pour guide que le sens du bien et du mal? Je percevais en lui un rayonnement, remarquais la beauté de son visage qui irradiait je ne sais quel soleil intérieur. Non content de tous les bonheurs qui me tombaient sur la tête, je découvrais mon père et me mettais à l'aimer. Je ne savais rien de lui, de sa jeunesse, ni pourquoi il avait dû quitter la Kabylie, s'installer à Marseille, puis à Paris. Je crois qu'il était berger là-bas et gardait les moutons. On se parlait peu, mais j'étais heureux de l'avoir retrouvé, moi qui, tout gosse, désirais fuir la misère comme un serpent se débarrasse de sa peau. Je la réendossais volontairement. Ça, c'est le récit que Mouloudji fera plus tard de ses retrouvailles avec son père. En attendant, il faut survivre, surtout, il faut se situer dans le Paris de l'époque. Avoir comme prénom Mouloud et comme aspect physique, n'avoir rien du blanc à rien aux yeux bleus. Et voici ce qu'écrivait Mouloudji. Une fois, il était dans la rue et on l'a traité de juif. Pardon, de sale juif, mais à l'époque, c'était presque un pléonasme. C'était la première fois qu'on me prenait pour un juif. Dans mon enfance, parmi les gosses du quartier, il y en avait des tas, au nom grinçant. On les appelait Youpin, Polak, Youd. Les gens disaient qu'ils venaient de Dieu sait où, parfois. Mon père, en parlant d'eux, ricanait. Ils sont malins, reconnaissait-il en hochant la tête, avec un mélange d'admiration et de méfiance, ça ne m'intéressait pas. Fils de Kabyle et de Bretonne, quelquefois j'avais été traité de petit bicot, je m'en fichais. J'étais du pays qui me donnait à manger, m'apprenait sa langue et m'offrait son savoir. Je me sentais de Paris. Je vous propose d'entendre une des chansons les plus célèbres de Mouloudji.
Bonnes gens, écoutez la triste ritournelle. Des amants errants en proie à leur tourment. Parce qu'ils ont aimé des femmes infidèles qui les ont trompées ignominieusement. Méfiez-vous, femmes cruelles, qu'on vous en fasse tout au camp. La douleur n'est pas éternelle, même chez le meilleur des amants. Vaincu par vos propres armes, vous connaîtrez à votre tour et le désespoir et des larmes de la jalousie et de l'amour. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Bonnes gens, c'est le refrain des filles cruelles, sans foi ni serment, trompées par leurs amants. Parce qu'ils ont aimé des femmes infidèles, ils se sont vengés victorieusement. À pleurer, mes tourterelles, vous voilà en peine d'amant. Des inquiétudes mortelles, c'est vous qui connaissez le tourment. répandez vos jolies larmes. Oui, pleurez, c'est bien votre tour. Vous avez dû rendre les armes et l'amour est mort, vive l'amour. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants.
Et donc, le jeune Marcel Mouldji, qui se retrouve pratiquement à la rue, va faire une rencontre importante. Il va rencontrer en 1935 un metteur en scène qui s'appelle Sylvain Itkin, qui fait partie du groupe Octobre. Et c'est Sylvain Itkin qui va le pousser à chanter avec son frère. Ça leur permet de mettre un peu de beurre dans les épinards, parce qu'ils avaient souvent des épinards, mais peu souvent de beurre. Et voici ce qu'à ce propos écrit Jacques Prévert, que Mouldji qui a bien connu Mouldji et que Mouldji a bien connu. Mouldji, quand je l'ai rencontré, c'était un enfant, un petit garçon. Il n'avait pas ce qu'il est convenu d'appeler une jolie voix, mais une voix vraie, vivante, troublante ou drôle, et parfois déchirante. C'était la sienne. La voix des rues, la voix du cœur. Il a grandi, mais il chante pareil. De là, son charme. Et puis, cette rencontre avec Sylvain Itkin va lui permettre de faire une autre rencontre, tout aussi importante pour lui, enfin disons pour le reste de sa vie et de sa carrière. Il est remarqué par un metteur en scène qui est alors à l'apogée de son ascension et qui va très vite s'imposer, Jean-Louis Barrault. Jean-Louis Barrault cherche un enfant pour faire de la figuration dans un spectacle. Et lorsque Mouldji va le voir, Barrault décide d'héberger Mouldji chez lui. Donc Mouldji va habiter un temps chez Jean-Louis Barrault. Il raconte lui-même d'ailleurs cette rencontre avec Jean-Louis Barrault. Il arrive devant la porte. Je frappais personne. J'avais séché l'école, la maison était vieille et majestueuse, le concierge m'indiqua de monter jusqu'au haut de l'escalier. Au dernier étage, je cognais contre une porte, rien. Je recommençais, pas de réponse. J'allais renoncer lorsque s'entrouvrit légèrement. Une étrange tête méfiante se profila, deux yeux soupçonneux m'inspectèrent. Puis l'individu me fit signe d'entrer. Il était nu, mis à part un minuscule cache-sexe, couleur d'écorce d'arbre. Mets-toi où tu veux, je n'ai pas pour longtemps. Il me parlait sèchement, mais n'avait pas l'air fâché. Sans plus s'occuper de moi, il alla se planter au milieu du grenier désert. Il se tint immobile, un peu à la manière de ma mère avant ses crises. Passé un certain moment, il se coucha presque au ralenti sur le carrelage, se pelotonna sur lui-même. Pas de meubles, d'objets, de rideaux, rien, pas même un poil. Soudain, l'homme levant lentement une main, le bras suivi, puis la tête, enfin le corps, je n'osais plus remuer. Je finis par aller sans bruit m'asseoir dos contre un mur. Ce garçon avait un visage d'oiseau de proie, casqué d'une chevelure frisée que je trouvais admirable, un corps extraordinairement musclé. Soudain, comme si coupé un fil, il émergea de cet état en une seconde, redevenu normal, me regarda avec curiosité, me sourit. T'es pas bien gros. » Puis, il me demanda de lui chanter quelque chose. Tandis qu'il s'habillait, j'entendais l'international. Il rigola, ça ira. C'est ainsi que je me trouvais sous la protection de Monsieur Jean-Louis Barrault. Alors, petit à petit, il va aussi faire du cinéma, de la figuration dans La Guerre des Gosses, un petit rôle dans Claudine à l'école de Serge de Poligny, aux côtés de Blanchette Brunois. Mais les grands rôles sont à venir.
Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être un idiot. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je t'aurais dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. C'est très curieux comme tes yeux brillent en te rappelant la jolie fille. Il brille si fort que c'est un peu trop pour expliquer les coquelicots. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je l'ai prise dans mes bras, elle m'a donné son beau sourire, et puis après, sans rien nous dire, dans la lumière de l'été, on s'est aimé. S'est aimé, et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Ce n'est rien d'autre qu'une aventure. Ta petite histoire, et je te jure, elle ne mérite pas un sanglot, ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras, un autre l'aimait, qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de blé. Mais sous le corsage blanc, juste où battait son cœur, il y avait trois gouttes de sang qui faisaient comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot.
Et petit à petit, nous voici parvenus à 1938. Alors, 1938, c'est vraiment l'année où Mouloudji, à l'époque, Marcel Mouloudji, il mettait toujours son prénom, va tourner dans un film qui est presque devenu un classique, Les Disparus de Saint-Agile. Alors, Les Disparus de Saint-Agile, c'est un film qu'on peut voir, revoir, avec des dialogues de Jacques Prévert. Et c'est un film où il y a quand même, il y a Michel Simon en vedette, Eric Van Schreim en vedette, une vedette qui pratiquement ils sont prêts à laisser passer pour que la vraie vedette du film, finalement, ça se révèle être Martin. Martin, c'est le squelette, puisque l'histoire se passe dans une école. Et alors, il y a trois gamins, les chiches-capons, qui ont mis sur pied un plan pour partir en Amérique. On va croire qu'ils sont partis en Amérique. Je ne vais pas vous révéler toute l'histoire, mais si vous avez l'occasion de voir ou de revoir le film, surtout, n'hésitez pas. Et puis, il va y avoir la guerre. Pour quelqu'un comme Mouloudji, c'est très difficile parce que, encore une fois, avec le physique qu'il a, ce n'est pas évident. Et il va tourner en 1942 Les Inconnus dans la maison. Les Inconnus dans la maison, c'est un film de Decoing, Henri Decoing, d'après un roman de Simenon. Et la vedette du film, c'est Rému. Sans vouloir dévoiler complètement l'intrigue, Mouloudji ne joue pas forcément le rôle le plus sympathique. Alors la guerre va passer, tant bien que mal. Plutôt bien quand on pense à tout ce qui aurait pu se produire. Et on arrive en 1945. Mouloudji écrit son premier livre, Enrico. Et le livre est récompensé par le prix de la Pléiade. Alors, Enrico, c'est un ouvrage à consonance fortement autobiographique. Je vous propose d'écouter Mouloudji.
Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui cachent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera l'orgue de barbarie. Cette air pour nous sera le plus beau, le plus joli. Puis je t'inviterai, ta taille je prendrai. Nous danserons tranquilles, loin des gens de la ville. Nous danserons l'amour, des yeux au fond des yeux, vers une nuit profonde, vers une fin du monde. Un jour tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. La la la.
après la guerre, Mouloudji va être introduit dans le milieu, ce qu'on appelle à l'époque le milieu de Saint-Germain-des-Prés. Il va faire une rencontre déterminante pour lui, celle de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Il va également avoir l'occasion de rencontrer Picasso. On a une photo chez Picasso où, à l'occasion de la lecture de la pièce de Picasso, Le désir attrapé par la queue, on voit Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, et puis quelque part, discret, Mouloudji. C'est assez extraordinaire. Et voici que Simone de Beauvoir s'attache à ce gamin. Et voici la façon dont ce dernier raconte sa rencontre avec Jean-Paul Sartre. La première fois que je le rencontrai, ce fut dans un petit hôtel face à l'entrée des Arties du théâtre de l'Atelier. En bas, il y avait un bistrot, fréquenté par des messieurs et des dames de mauvaise réputation. Dans mon esprit, un philosophe était un être barbu, planant au-dessus des contingences humaines, respirant la sagesse et le calme. En entrant dans la chambre, j'aperçus, assis sur le haut du lit, chambre pendante, un monsieur qui fumait la pipe et dont les pieds ne touchaient pas le plancher. Quel étonnement, c'était lui, le fameux Sartre. Il se leva, descendit du lit. On se serra la main. Sa poignée était sèche, énergique. L'intelligence l'illuminait. Je ne me souviens plus de quoi nous parlâmes, décontenancé. Je surveillais l'expression de mon visage. J'ai trouvé un aspect si étrange à ce bonhomme, c'est vrai, qu'il était différent du commun des mortels. Des yeux que je ne sais fixer, un air rigolo, une façon de s'intéresser à vous, de vous faire confiance, des manières qui respirent une avide joie de vivre, surtout une voix bien posée, presque métallique, une diction parfaite. Tout cela faisait un phénomène duquel s'est dégagée une chaleur, une bonne volonté, une simplicité déroutante. Aucun rapport avec un philosophe tel que je l'imaginais. Alors, si vous avez la curiosité de lire ou de relire les œuvres de Simone de Beauvoir, elle évoque Mouloudji à plusieurs reprises, notamment dans La force de l'âge, puis ensuite dans La force des choses. Et c'est elle qui lui a conseillé de continuer à écrire. Voici comment lui-même, Mouloudji, raconte. En cachette, j'écrivis plusieurs pages sur mon enfance. On me conseilla de les soumettre au jugement de Madame de Beauvoir. Elle eut la bonté de les parcourir, m'incita à continuer de plus, et de plus elle m'offrit son aide. De loin en loin, je lui livrai mes pattes de mouche qu'elle passait au crible de son jugement. En conclusion, elle décida que j'avais quelque chose à dire. Le grand mot avait été jeté, impressionné, flatté par ses encouragements. Je poursuivis. Alors, entre l'écriture, la chanson, parce qu'il a commencé à faire du cabaret, les films ont peu à peu prendre moins d'importance dans sa vie. Alors, le cabaret, son premier grand succès, c'est La Complainte des Infidèles. La Complainte des Infidèles, c'est extrait d'un film de Carlo Rim, La Maison Bonadieu, avec Daniel Darieux et Bernard Blier en vedette. Et puis, il y aura en 1953 un deuxième grand succès, Comme un petit coquelicot. Et puis, il va tourner à nouveau dans Nous sommes tous des assassins. Et arrive l'année 1954, il va avoir le courage de reprendre une chanson de Boris Vian, Le Déserteur. Et on sait que Boris Vian, à la demande de Mouloudji, a changé les dernières paroles du Déserteur. Je vous propose d'écouter Le Déserteur.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mentirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Voici ce que un poète connu disait de la voix de Mouloudji. Il m'a toujours semblé que la voix de Mouloudji était d'abord celle de la tendresse. Sa tendresse qu'il donne aux amants heureux ou douloureux perdus dans la ville, se retrouvant dans les squares humbles près des bouches de métro sur des bancs qui ont une vieille expérience des jours et des nuits, et qui s'étend aux fleurs belles même quand elles se fanent, aux chiens errants, à ces richesses que sont la patine des vieux murs, les soies de la pluie sur l'asphalte des rues, les soleils qui provoquent la nostalgie parce qu'on les sait de passage, la joie des élans du cœur, la tendresse est une exigence, c'est la forme non appuyée de l'amour. Mais qu'on ne la tienne pas pour non-revendicatrice, elle a ses violences, simplement elle déborde les jeux de la politique,
pour exiger une part plus totale, moins fragile de l'âme. Ce qu'elle veut aussi, sans quoi elle ne vivrait pas, c'est qu'on l'appelle poésie. Un mot bien étrange, que fait d'angoulogie. Depuis longtemps, je l'écoute, je le lis, et j'ai toujours vu tenir la tendresse par la main comme une fiancée, comme une amoureuse, la conduire à ce lieu à la fois secret et public, où les hommes respirent en liberté. Ces lignes, ces quelques lignes, sont de Max-Paul Fouché. Hommage toujours à la poésie. Mouloudji va écrire en 1972 pour l'éditeur Segers, dans la collection Poésie et chansons, un opuscule destiné à Aristide Aristide Bruant. La fin de la vie de Mouloudji sera plus difficile dans la mesure où il a monté une maison de disques, une maison d'édition. Je vous propose d'écouter d'ailleurs une des chansons qu'il a composées, Les Merveilleux Dimanches.
Ah, qu'était bon le temps où j'avais mes 10 ans. Il y a bien des guerres, il y a bien longtemps. J'avais papa, maman et une petite amie aux yeux en clair de lune. Ah, j'ai 8 ans et demi, chaste comme des images. On s'embrassait si fort que des étoiles aux lèvres m'en reviennent encore. Dans la ruelle blonde, tachée de rigolade, les jours de paye étaient des jours de libation. Dans la nuit du samedi, flonflonnait chaque square. Les vieillards du quartier allaient au but de Chaumont cultiver le cancan et faire des manilles, parler des morts tout neufs. En crachant leur bacille, le dimanche on allait se laver en famille, frotter collectivement nos crasses prolétaires. On hurlait à tue-tête dans la vapeur bleutée. En queue de douche en douche, il faisait bon chanter au corsile d'amour, ou adieu Hawaï, ou le chaland qui passe, ou l'immortel Chichi. On en sortait tout propre et les cheveux mouillés. On promenait pharo nos odeurs de savon. De l'église venait couleur de grenadine, la bibole à la main, les fillettes mutines, serrées par leurs parents, en bouquet noir et blanc, et les cloches volaient. Sur les toits des maisons, on allait au cimetière passer l'après-midi. C'était l'endroit le plus calme et le plus sain aussi. On y avait entombé beaucoup d'anciens amis. On y faisait de nouvelles connaissances aussi. On casse-croûtait gaiement, allait des bons enfants, riait des bigorneaux, vin rouge évidemment. Le soir pour se cultiver, on allait au ciné, soit au Cocorico, soit au jardin d'Allah. Parfois jouait Mae West, parfois c'était Fairbank qui nous émerveillait comme de la poudre blanche. Après papa se battait et maman sanglotait, je me souviendrai toujours ces merveilleux dimanches.
Vous venez d'entendre Les Merveilleux Dimanches de Mouloudji. Voici à présent, et nous nous quitterons là-dessus, une autre chanson écrite par Mouloudji, La Rouquine. À la fin de sa vie, il avait perdu la voix. Il s'est éteint en 1994 à Neuilly-sur-Seine et il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Je vous laisse en compagnie de Mouloudji et je vous remercie de m'avoir écouté.
De l'orgue de Barbarie, j'ai vu une fille aux yeux verts, aux cheveux roux, en pullover, une fleur de mélancolie.
près de la Tamise, tapinaient des horizontales de France, qui au passage nous hélaient avec des accents de Provence. Elle avait une tête de victime, des yeux pleins de pluie qui parlaient à la fois d'amour, de monnaie. Dans toutes les langues, ça se devine, elle m'appela son of a bitch, ce qui veut dire fils de putain, mais dit avec sa voix de biche, c'était doré comme du latin. Je n'ai pas cherché à comprendre pourquoi tous deux on s'est compris. On parlait chacun dans sa langue, on restait chacun dans sa vie. Il plut durant tout le mois d'août, c'était en Angleterre. Dans sa rue rôdaient des voyous toujours corrects, roses au veston, et des flics doux comme des bonbons. Elle avait une tête de victime, et vrai, c'était une vraie routine. Ce sont plus lovers verts dormaient, de petites colombes de la paix. Elle s'est sauvée vers la Tamise, elle portait pas même une chemise. Elle avait tout d'une éhontée, quand dans mes bras elle s'est noyée. On concubina tout l'été. Je n'appris pas un mot d'anglais, puis je repartis vers la France, classique et lala jusqu'au quai. On se quitta sans rien se dire, puisqu'on ne se comprenait pas. Comprendrai-je jamais pourquoi, pourquoi toujours je la revois. Avec sa belle tête de victime, était-ce une respectueuse ou quine, un soldat de l'armée du salut? Moi dans London, je suis mis perdu, souvent dans mes rêves anglais. Elle flotte des yeux pleins de pluie, comme dans la rue où je la vis, telle une fleur de mélancolie.
Vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel et nous vous donnons la parole sur notre page Facebook. Réagissez, commentez, faites-nous part de vos coups de gueule ou de vos coups de cœur et surtout, restez connectés à l'actualité de votre radio préférée.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
C'est l'émission qui donne la parole aux associations de votre département. Retrouvez chaque semaine les acteurs de la vie associative eurélienne pour évoquer l'histoire et l'actualité de leur structure. Découvrez leur engagement au service des autres. Ensemble, c'est le lundi à 11h30, le jeudi à 19h et le vendredi à 8h sur RGC et sur radiograndciel.fr. Got your flashing warning in your face, but it's been so long, girl, since you could keep the pace. You see your infidelity.